C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Commençons ce matin par le fameux Super Mardi. Ce qui était prévu est arrivé, c'est-à-dire que c'est un couronnement pour Donald Trump et Joe Biden. Donc, les deux hommes vont s'affronter dans cette course à la Maison-Blanche en novembre prochain. Nikki Haley est allée chercher le Vermont assez serré. Et on apprend, là, c'est une rumeur qui n'est pas confirmée, mais qu'elle devrait se retirer de la course, Nikki Haley, aujourd'hui, sans pour autant annoncer son soutien à Donald Trump. Et M. Trump parlait hier de l'unité au sein du Parti républicain. Et Mme Haley a dit, l'unité, ça ne se commande pas, ça se fait, et il y a des raisons, il y a un contexte pour que ça puisse se produire. Donc, une victoire très claire. Il y a évidemment les obstacles juridiques pour Trump, qui sont tout au long du parcours. Et pour Joe Biden, c'est encore une fois, on l'a vu dans les sondages, une question, la question de l'âge, sa capacité à prendre un autre mandat comme président des États-Unis. Et je faisais le tour rapidement ce matin. Dans le cas de Joe Biden, il y a toute une stratégie de communication qui est développée avec des influenceurs, des apparitions dans des émissions un peu plus de variété. Et en gros, c'est laisser Joe être Joe. Mais ça peut comporter un risque parce que parfois, il dérape et il peut, disons, se positionner peut-être dans un coin de la pièce qui n'est pas nécessairement agréable. Quant à Trump, il y a un enjeu de financement. D'abord, Biden, l'argent rentre massivement pour sa campagne électorale. Dans le cas de Trump, on sait qu'il pige dans la caisse également pour payer ses avocats dans le cadre de ses nombreuses procédures. Et là, on dit que dans les derniers jours, en Floride, il a eu une rencontre avec Elon Musk pour solliciter M. Musk en disant « j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de votre aide ». Musk a toujours joué sur les deux fronts, démocrate, républicain, il a fait partie d'un comité créé par Trump quand il était président, il s'en est retiré parce que, contrairement à Trump, Elon Musk croit que les changements climatiques sont réels et ont un impact. Et donc, il a levé les feutres. Mais en même temps, il dit que Biden ne doit pas être réélu. Alors, est-ce qu'il va contribuer? C'est pas son habitude, mais ça montre à quel point Trump a besoin d'argent. On va reparler de tout ça avec Charles-Philippe David un peu plus tard ce matin. L'autre dossier, c'est celui de Nordvolt. Dans une entrevue à la presse, le ministre Benoît Charrette, pour la première fois, je pense, dit la vérité sur ce qui s'est passé. Ce que on avait décodé, c'est que le gouvernement avait fait des concessions à Nordvolt pour être capable d'amener ce projet d'usine au Québec. Alors, qu'est-ce qu'il dit, M. Charrette? Il dit que Nordvolt ne serait jamais venu au Québec s'il y avait eu une évaluation du BAP, une évaluation environnementale. Et on a aussi laissé tomber un autre critère, toujours dans le cadre de la politique verte du gouvernement, parce que la compagnie a assez clairement fait comprendre qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Et là, je vais citer Benoît Charrette qui dit « Si moi j'avais dit aux dirigeants de Nordvolt à l'époque qu'un BAP, ça nous amène dans 18 mois avant de pouvoir leur donner une idée de ce qui serait possible, on n'aurait pas eu de projet au Québec. » Alors ça, c'est ce qu'il a dit. C'est la première fois, parce que là, avant, on nous disait non, 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 il n'y avait pas cet enjeu-là, c'est pas vrai, au contraire, ça s'est fait dans les normes. Mais pourquoi vous avez changé les critères du BAP? Ben, essentiellement parce que il fallait le faire, puis on a ajusté. Je vous fais entendre une entrevue qu'on a faite en février avec Paolo Cerutti, qui est le président de Nordvolt pour l'Amérique du Nord et fondateur de la compagnie. Et je lui demandais justement si l'entreprise avait mis de la pression pour faire sauter le BAP. Est-ce que vous avez demandé au gouvernement qu'il n'y ait pas d'évaluation par le BAP, le bureau?
Absolument
là?
Pas. Absolument pas. Il existait, depuis 2022 d'ailleurs, il existe un cadre réglementaire très clair pour l'industrie chimique et dans l'industrie chimique la batterie qui prévoit dans quel cas il est nécessaire de se soumettre en BAP. Mais il y a aussi une urgence qui est de caractère commercial. Si vous regardez tous les projets qu'il y a en ce moment en Amérique du Nord, qu'ils soient aux États-Unis ou qu'ils soient au Canada, ils sont tous dans une fenêtre de tir qui est entre 2025 et 2027.
Alors, on va lire entre les lignes, puis on va traduire ce que ça veut dire exactement. La compagnie n'a pas dit « je veux pas de BAP ». La compagnie a dit « j'ai pas de temps à perdre ». Faites ça rapidement. Et si les délais sont trop longs, on va aller ailleurs, dans une autre juridiction, où ça va être plus facile de construire, parce que les compétiteurs doivent produire. Et il y a cette compétition, justement, qui existe. Là, tu te dis, mais pourquoi le gouvernement du Québec s'est entêté à ne pas dire la vérité? Là, on l'a décodé grâce à des reportages à Radio-Canada, Thomas Gerbin, puis d'autres là, qui nous disent, regardez, ils ont changé les critères du BAP pour protéger Northvolt. Regardez, le ministère de l'Environnement avait dit non à un projet immobilier, disent oui à Northvolt. Si on avait dit clairement, c'est un projet hors du commun, c'est le plus gros investissement depuis la baie James pour le Québec. Et oui, on est obligé de faire une parenthèse. Si le ministre de l'Environnement avait dit « j'ai dû faire ce compromis parce que je pense qu'en bout de ligne, c'est plus important », la franchise aurait été payante. Et là, c'est pas ça, là. On nous a dit « non, 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 vous êtes de mauvaise foi, puis c'est pas vrai que... puis là, vous faites peur à Northvolt, puis ils vont s'en aller. » Je veux dire, on a adapté le processus environnemental aux besoins de la compagnie. C'était une condition d'implantation. Et je comprends que toute la réglementation concernant le lobbying, mais là, il faut arrêter de prendre les gens pour des valises. Et là, je ne sais pas pourquoi, soudainement, là, peut-être que la pression est trop forte, peut-être parce que Fitzgibbon est à l'étranger, mais là, Benoît Charrette sort et dit, on n'avait pas le choix, sinon on perdait la compagnie. Autre volet ce matin, celui des infrastructures. D'abord, on a parlé beaucoup des centres jeunesse, de ces cellules où on enferme des enfants, dits tannants, parce qu'on ne sait pas quoi faire avec eux. Là, la presse nous dit ce matin qu'il y a une installation sur cinq pour la protection de la jeunesse, les centres jeunesse, qui est vétuste. Ça coule, ça n'a pas été rénové, il n'y a pas de peinture. Un peu ce que je vous disais hier, mais pas aussi documenté. Donc, selon le bilan du ministère de la Santé et des Services sociaux, des 139 centres jeunesse et foyers de groupe, 19 sont dans un état tellement vétuste. C'est la cote D, c'est mauvais. Et 11 dans un état très mauvais, la cote E. C'est, et je cite, un niveau élevé à très élevé de dégradation et de problèmes défectueux et que l'immeuble a besoin de travaux importants et urgents. En sous-titre, on pourrait dire, ce sont les résidences d'enfants qui ont besoin d'aide, de protection et qui ont besoin de chaleur et d'humanité. Et Québec accepte et repousse dans le temps des investissements importants. Je comprends ce que le ministre Carman nous disait hier matin, puis le plan, puis etc., puis les structures, puis la directrice nationale, la protection, puis tout ça est fantastique. La vraie question, là, les enfants, ils vivent où? Dans quelles conditions? Et c'est pas d'hier. Et moi, c'est ça qui me met le feu, c'est que c'est pas d'hier. J'ai vu des centres jeunesse où on avait des espèces de barbelés à certains endroits. C'était aberrant. J'ai vu des locaux désuets. Le personnel, les intervenants, les intervenantes qui ont passé la semaine à m'écrire, là, qui me racontent ce qu'elles ont vécu, par exemple, dans des salles d'isolement, dans des périodes de confinement. Puis des enfants agités peuvent effectivement déranger les autres. Mais est-ce qu'on peut pas créer un minimum d'espace qui soit fonctionnel et agréable à vivre? Tu sais, ce sont des enfants qui peuvent être lourds, puis je sais, c'est des fois tu te dis, ces enfants-là, c'est de leur faute qu'ils n'ont pas eu les bons parents peut-être. Ou encore, ils ont un handicap, puis ils se retrouvent dans un centre, puis ils ne devraient pas être là. Mais ils sont là. Je veux dire, t'as beau dire, là, je devrais pas les avoir ici. C'est pas la place, c'est pas le job de la DPJ. OK, mais ils sont là. Puis on les garde dans quelles conditions? Et sérieusement, cette espèce de structurite puis de bureaucratie qui entoure la protection de l'enfance, ça désespère les gens. Et après ça, on se demande pourquoi il y a un roulement de personnel, un paquet d'intervenantes. J'ai quitté depuis 2 ans. J'ai été là 6 mois. Ça n'a pas de bon sens. Si les gens voyaient les conditions, puis il y a des gens qui sont intentionnés, là, bien intentionnés, qui veulent aider, mais qui se disent « ça n'a pas d'allure », alors que ce sont les enfants les plus vulnérables de la société. C'est, avouons-le, assez particulier. Puis là, on a une autre étude qui nous arrive du ministère de l'Éducation qui nous explique que le nombre de classes, ça demeure évidemment un pourcentage faible, mais où il y a des problèmes de qualité de l'air, problèmes de ventilation. Puis imaginez, là, il fait pas moins 25. Alors ça aussi, c'est en augmentation. Quand vous regardez nos infrastructures, par exemple, vous regardez des centres jeunesse, vous regardez les écoles, pour parler des rues, des routes, tu dis, on paye tellement d'impôts, comment ça se fait qu'on a laissé ça à l'abandon pendant autant d'années? C'est pas juste la CAQ, là, on peut bien taper ça à la CAQ, mais ça a été négligé là, pendant, par exemple, la période d'austérité des libéraux. Très bien, la Ville de Montréal nous a fait savoir qu'elle souhaitait devancer le grand ménage du printemps. Le constat est assez brutal, si vous vous promenez dans les rues. Puis là, je parle de Montréal, mais on pourrait parler des autres villes. Là. C'est clair que la fonte du peu de neige reçu fait en sorte qu'on se retrouve avec des rues qui sont sales, des parcs, c'est plein de cochonneries. Puis vous savez ce que je dirais, ce qui est un peu normal après un hiver, là, où on a mis, par exemple, la petite roche, puis on a laisser traîner des trucs, puis à un moment donné, ça disparaît dans la nature, puis quand ça fond, ben ça réapparaît. Puis là, bon, ben on n'a pas l'équipement, on essaie d'en louer, l'école bleue pour en faire un peu plus. Comment démarrer l'opération propreté à Montréal le plus rapidement possible? Et vous avez la responsable du dossier à la ville à qui on va jaser un peu plus tard, Maya Vodanovic, qui dit que les poubelles, je la cite, « sortent avant les fleurs ». Quantité impressionnante de déchets dans les espaces publics, particulièrement dans le plateau. Vous pouvez parler d'Outremont, vous pouvez parler des arrondissements, peut-être plus au centre, mais c'est un problème réel partout. OK, c'est vrai, il faudrait que la ville fasse le ménage, là, puis ramasse les poubelles, puis passe le balai, puis ça presse. Mais en même temps, on peut-tu se regarder d'en face? Ces cochonneries qui traînent, il y a toujours bien quelqu'un qui les a laissées dans la rue. Je regardais autour depuis les derniers jours, là, des trucs qui traînent sur des pelouses, des mini-pelouses devant des triplex, par exemple. C'est pas la ville qui a mis ça là. Des sacs de cochonneries qui traînent dans des ruelles. C'est pas la ville qui a mis ça là. Je veux bien là, mettre de la pression sur la ville pour que l'opération nettoyage commence. Mais on peut-tu se regarder comme citoyen? Pourquoi on est cochon à ce point-là? Puis qu'on garoche à peu près n'importe quoi. C'est pas Valérie Plante là qui a laissé un gobelet de slush traîner, puis des sacs qui volent au vent. Puis tu sais, il y a une réalité météo et il y a aussi le côté cochon d'un bon nombre de citoyens. Puis il y a des voitures taxi à Montréal qui auraient intérêt aussi à faire le ménage. Mon ami Fabrice de Pierrebourg doit partager une photo où on voit un plexiglas qui est sale, puis on voit des papiers journaux qui traînent à terre. Je m'excuse, mais ça n'aide pas à l'image de la métropole. Puis je vais dire quelque chose d'effrayant, puis j'en prends souvent des taxis, puis je sais, ils vont me jaser de ça. Quand tu montes dans une voiture qui est pas propre, où ça sent mauvais, tu pousses les gens vers Uber. Et après ça, tu te plains. Puis je dis pas que les conditions de travail sont faciles pour les chauffeurs. Mais ça fait partie, là, des choses à améliorer. Sinon, les gens vont se tourner plus rapidement vers Uber parce que les véhicules sont plus propres. Ça, c'est une réalité. Et le taxi, c'est quand même le premier contact, souvent, du touriste qui débarque à Montréal. Alors, on va y revenir plus tard ce matin. Rapidement, pour conclure, on apprend dans Le Soleil que Desjardins écarte la possibilité de poursuivre, pour l'instant, l'employé responsable du vol de données ou les employés. Je veux juste rappeler que ça fait 5 ans que l'enquête dure sur le vol de données de 9 millions de membres de Desjardins. 5 ans. Puis on ne sait pas exactement si ça va déboucher sur des accusations. Le président du mouvement, M. Cormier, dit on a congédié cet employé. Et pour l'instant, c'est là où on en est. J'ai une petite idée aussi du pourquoi. Poursuivre pour obtenir quoi? On n'est même pas capable d'accuser au criminel pour le vol de données, en tout cas pour l'instant. Puis peut-être qu'on n'a pas intérêt trop à ce qu'on se mette le nez sur la facilité avec laquelle les données ont été volées, puis à quel point Desjardins a peut-être manqué à ses obligations. Je dis peut-être. Ça peut peut-être aussi donc expliquer pourquoi on n'a pas envie de poursuivre. Et le BEI sur les fuites à l'UPAC, on attend toujours. Ce sont les enquêtes interminables du Québec. Et puis on vous parlera évidemment des problèmes financiers de Juste pour rire avec Catherine dans deux instants, puis de l'ensemble des festivals qui sont secoués, puis le monde de l'humour. Alors, un matin quand même assez chargé.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcan.
Qu'on va parler de Juste pour rire avec l'annonce d'hier. On se protège donc des créanciers. Et puis avec Pierre-Yves, on a regardé tout l'aspect financier. Mais là, je veux m'attarder ce matin au volet humour, création, artistique. Deux invités sont avec nous. Normand Brathwaite, que vous connaissez bien. Bonjour, Normand.
Bonjour.
Et Laurent Paquin aussi qui est avec nous. Laurent, bonjour.
Hey, bonjour, Paul.
Bon, je commence avec toi, Laurent, parce que tu as quitté les productions Juste pour rire il y a quoi, 2 ans? C'est un nouveau spectacle que tu présentes avec un nouveau producteur. Quelle lecture tu fais de ce qui s'est passé hier?
Moi, je trouve ça d'une immense tristesse pour tous les artistes impliqués, mais tu sais, pour tout le monde, pour le quartier des spectacles, c'est... On a vraiment l'impression que le Québec vient de perdre un événement majeur, la culture vient de perdre un événement majeur, mais j'essaie de relativiser, c'est parce que c'est très émotif aussi pour moi. Moi, Juste pour rire m'a mis au monde, je considère que Juste pour rire a mis au monde tous les humoristes de ma génération et même la génération d'avant, puis la génération d'après aussi. Donc c'est comme un choc dont on se remet. Mais j'ai lu quelque chose ce matin, une expression que j'aimais beaucoup, quelqu'un qui disait « la nature a horreur du vide ». Je suis assez d'accord avec ça. J'ai l'impression que c'est pas l'humour qui va mourir, ça va continuer, ça va exister encore. Mais moi, je continue d'espérer qu'il se passe quelque chose. On dirait qu'on espère quand même un miracle ou un sauveur, mais j'essaie d'être optimiste, mais j'ai de la misère.
Normand, t'étais avec Juste pour rire jusqu'à la fin, dans le sens où t'as participé au gala l'été dernier avec Yvon Deschamps, t'as été l'animateur de plusieurs galas. Est-ce que l'été passé, tu sentais qu'il se brassait quelque chose?
Ben moi, je me disais que, bon, l'ultime gala, tu sais, ultime, le mot ultime, c'est toujours que ça veut dire qu'il va en avoir un autre l'année prochaine. Là. Mais jamais j'aurais pensé perdre cette espèce de gros mammouth-là qui était juste pour rire. Puis je suis d'accord avec Laurent. Moi, je pense, je le dis humblement, que j'ai fait le premier gala Juste pour rire. C'était un spectacle pour Charles Drenet, avec Louise Portal, moi, Julien Kerr, puis Charles Lebois. Ça n'avait rien à voir. C'est une idée complètement pétée. Après ça, je l'ai animé pendant tellement d'années. C'était rendu... c'était pas juste bon, mes galas, on était 7 à faire des galas. Le quartier, c'était incroyable. C'est comme on préparait notre été en se disant de telle date à telle date, on va avoir du fun, on va rire à Juste pour rire. Puis moi aussi, j'ai été bien surpris. Je pensais même que c'était Laurent qui allait repogner ça avec Martin Petit ou quelqu'un. Je ne savais pas.
Mais quand même, on donne comme raison la pandémie, OK? On veut, là, mais l'ensemble du milieu culturel a été durement touché par la pandémie. Mais d'après vous, y a-tu autre chose? Qu'est-ce qui fait que Juste pour rire tombe? Il y a d'autres festivals qui réussissent quand même, en tout cas officiellement, à rester en vie aujourd'hui, Laurent?
Hey, j'avoue que ça, c'est une énigme pour moi. À l'interne, j'ai pas des infos pour répondre adéquatement. Moi, je suis certain que la pandémie a fait extrêmement mal parce que les galas, mine de rien, c'est un des événements les plus importants. Puis moi, j'ai fait 2 années de suite des galas devant personne ou devant un public de 250 personnes dans une salle de 3000. Mais tu sais, à savoir est-ce qu'il se passe des choses louches ou des choses des informations qui nous auraient échappé, ça,
non, j'avoue que c'est pas... Non, c'est pas des affaires louches. Je vais donner un exemple. Est-ce que tout le côté artistique, créatif, tu le sentais autant dans les derniers moments que lorsque tu es arrivé?
Ben, moi, je sentais que Juste pour rire était sur une lancée vraiment intéressante après la vente. C'est-à-dire que moi, j'avais, après le scandale Roson, quand le premier festival a eu lieu après ça, je sentais une légèreté dans les coulisses, un plaisir d'être là. Il y avait des gens qui étaient plus là, qui sont revenus parce que Gilbert Roson était plus là. Moi, je sentais que c'était parti sur une belle lancée. Puis on est arrivé après ça avec 2 années de suite de pandémie. Mais effectivement, peut-être que c'est facile de mettre tout sur le dos de la pandémie, mais on peut pas nier que ça a dû avoir une importance très, très grande. Puis là, je viens d'apprendre ce matin, il paraît que Juste pour rire doit de l'argent à Gilbert Roson. C'est 15 millions, c'est peut-être pas énorme, mais c'est quand même 15 millions. Pour le reste, j'avoue que je reste quand même surpris.
Normand, qu'est-ce que tu penses de ça? Toi qui es là depuis le début, là.
Moi, je pense que s'il y avait un événement qui aurait survécu à ça, à la pandémie, c'est Juste pour rire, juste par son immensité. Je ne veux pas faire de comparaison avec Québec, là, mais Québec s'est rendu très gros aussi. Mais quand on a fait l'ultime gala, le dernier, tout le monde était là. Tout le monde était prêt à ben, c'est sûr, c'était Yvon, c'était pour Yvon, mais je m'explique mal comment ça se fait que c'est passé de si gros à si à mort. Mais encore là, j'ai pas tous les détails des finances de ce qui s'est passé là.
Mario Jean a dit hier soir, quand j'ai commencé, il y avait une dizaine d'humoristes, mettons, puis il dit maintenant, il y en a 50. Est-ce que c'est un signal pour l'industrie de l'humour aussi? Laurent?
Ben moi, je pense pas. Je pense que c'est le festival, c'est un canal d'expression pour les humoristes, mais depuis déjà quelques années, c'était plus le canal privilégié de tous les humoristes. Il y a des humoristes qui ont réussi très bien sans faire le festival. Il y a des artistes aussi qui étaient moins intéressés à faire le festival. La formule des galas ne plaisait plus à tout le monde. Fait que je pense pas que c'est une question de quantité d'humoristes. J'ai vraiment l'impression que l'offre s'est diversifiée avec le web aussi. Mine de rien, les jeunes humoristes vont éclore sur le web. Ça arrive moins souvent qu'un humoriste arrive sur scène et qu'on le découvre au festival Juste pour rire. Ça existait encore, mais les derniers exemples, c'est Mariana Mazza, Simon Gouache, mais sinon, un jeune qui arrive à Juste pour rire, puis on le découvre comme ça, ça existait presque plus.
Normand, là-dessus?
Ben oui, évidemment. Ben, je pense comme Laurent là-dessus. Est-ce qu'il y a trop d'humoristes? Moi, je les connais à peu près tous, donc ça veut dire que j'ai accès à eux. Tu sais, c'est très rare que je vois quelqu'un que j'ai jamais entendu parler. Alors, il y a plus d'humoristes, il y en a effectivement 10 fois plus, mais il y a plus de plateformes. Alors, je ne sais pas si vraiment, c'est pas vraiment, je pense, le nombre d'humoristes. Puis il faut pas oublier que Juste pour rire, c'était pas, moi, je faisais plus de spectacles musicaux, puis il y a toutes sortes d'affaires. Est-ce que Slava, c'est un humoriste? Pour moi, c'est un clown. Là. Tu sais, c'est autre chose. Qui t'autre d'humoriste, je dirais non. C'est pour moi, ça m'a jamais dérangé.
Est-ce que...
En fait, je pense même que le nombre d'humoristes aurait pu même jouer en faveur d'un festival, parce que faire un festival à chaque année avec 10 humoristes, ça devient redondant. Là, on a des nouveaux visages à chaque année. Il y a des personnes qui arrivent. C'est juste que Juste pour rire était plus... Et quand je dis Juste pour rire, c'est n'importe quel festival d'humour. Moi, j'anime à Comédia, mais même Comédia, c'est plus le nouveau canal pour faire découvrir des nouvelles têtes. Les places sont limitées, donc les jeunes qui sont pas pris sur un gala découvrent d'autres façons de se faire découvrir. Le web, les soirées d'humour. Aujourd'hui, il y a moyen de gagner sa vie très honorablement en faisant que les soirées d'humour un peu partout à travers le Québec. Donc, le milieu a changé, mais moi, je pense vraiment qu'on va découvrir des choses sur les finances de Juste pour rire éventuellement. Parce qu'on dirait que c'est un trop gros manque à gagner, une trop grosse dette. Puis j'ai de la misère, moi aussi, à penser que c'est juste la pandémie qui a fait ça, vu qu'il y a d'autres festivals qui ont quand même bien survécu. Donc, j'ai l'impression qu'il nous manque beaucoup d'informations pour vraiment se prononcer.
En terminant, et Normand le disait un peu, l'humour bien sûr, mais il y a de la musique, il y avait les fameux défilés des jumeaux, puis bon, il y avait une série d'événements autour de Juste pour rire, et si ce n'est que pour l'animation d'une ville comme Montréal, en plein été, qui a sa réputation pour les festivals, c'est clair que c'est un coup dur. Avez-vous l'impression que ça peut revenir, peut-être pas la même forme, mais que l'humour ou le divertissement peut retrouver sa place à Montréal dans les rues. Pas l'été prochain, mais peut-être dans 2 ans. Normand?
Moi, ça me ferait vraiment plaisir. Je pense que c'est vraiment nécessaire. On pourrait prendre 1 an pour nettoyer les rues, puis après ça, faire quelque chose.
Au moins 1 an. Laurent?
Au moins 1 an.
Ben moi, j'ai l'impression que c'est inévitable. Je pense qu'il y a des gens là qui travaillent là-dessus déjà. Là, tu sais, je suis pas dans le secret des dieux, mais je crois savoir que parmi les quelques personnes qui ont pas perdu leur poste à Juste pour rire, il y a des gens qui essayent de sauver les meubles puis de peut-être repartir quelque chose l'an prochain. Moi, j'y crois. Je pense vraiment que c'est important pour Montréal. Juste pour rire avait un impact financier dans tout le quartier des spectacles. Parce qu'on pense souvent aux humoristes, puis on se dit, bah, les humoristes font pas pitié. Mais la chute de Juste pour rire, c'est pas que les humoristes, c'est tellement de monde. C'est des techniciens, c'est des gens qui travaillent, c'est plein de travailleurs, des gens qui travaillent dans l'ombre. Puis c'est aussi tous les restaurants, tous les commerces dans le quartier des spectacles. C'est les retombées économiques étaient vraiment très importantes. Fait que ça aussi, ça va être un gros manque à gagner pour la ville, j'ai l'impression.
Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Bonne journée.
Merci à vous.
Salut. Laurent Paquin et Normand Bradway.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcand.
Alors, c'était un point tournant important ce super mardi aux États-Unis. Pas de surprise vraiment. Donald Trump et Joe Biden qui, de toute évidence, vont s'affronter pour la course à la Maison-Blanche pour l'élection du mois de novembre. Nikki Haley est allée chercher des délégués dans un État, le Vermont. Et il y a des rumeurs qui veulent ce matin, entre autres à CNN, qu'elle annonce qu'elle se retire de la course sans pour autant appuyer Trump. Avec nous pour en parler, Charles-Philippe David. Bonjour, Charles-Philippe.
Bonjour, Paul.
Pas beaucoup de surprises, mais quand même, là, disons que la lutte à deux est assez claire.
Ah ben c'est clair que c'est le match revanche. On l'avait un petit peu anticipé quand même, Paul, mais là vraiment ça s'est confirmé de manière éclatante hier soir. Donald Trump a gagné plus de 90% des délégués qui étaient en lice hier pour l'investiture républicaine. Un score de 90%. C'est le même en passant aussi pour Joe Biden, donc pour les deux candidats, c'est quand même la confirmation qu'ils sont clairement ceux qui s'affronteront dans précisément 8 mois, d'ailleurs, presque jour pour jour. Donc, le sort en est jeté, les dés sont jetés, et je pense que maintenant, on passe tranquillement à la deuxième étape vers les conventions des deux partis. Et l'annonce peut-être anticipée de Nikki Haley va encore plus confirmer cette nomination de Donald Trump.
Est-ce qu'elle peut jouer un rôle, le fait qu'elle décide ou pas de soutenir Trump? Il y a quand même des gens qui ont voté pour elle, des républicains qui n'aiment pas Trump. Qu'est-ce que ça peut changer au résultat final?
Clairement, Paul, parce que les électeurs et les électrices de Nikki Haley sont probablement ceux et celles, d'abord, qui sont très anti-Trumpistes et qui peuvent être tentés soit de s'abstenir de voter aux élections présidentielles, soit peut-être même de voter pour Joe Biden, si Nikki Haley surtout ne se prononce pas en faveur de Donald Trump et ne l'appuie pas, ou encore, évidemment, peuvent voter pour un candidat d'un tiers parti, on pense à Joseph Kennedy Jr. ou d'autres. Alors, ça, pour Donald Trump, c'est une mauvaise nouvelle. C'est la seule, je dirais, vulnérabilité que j'ai vue hier soir, c'est que lorsqu'on superpose les comtés qu'a gagné Nikki Haley un peu ici et là à travers les États-Unis, sur les comtés gagnés lors de la présidentielle de 2020, ben c'est les comtés gagnés par Joe Biden. Donc, Donald Trump et son électorat de banlieue, de grandes villes américaines surtout, d'électeurs et d'électrices indépendants, ça, c'est un électorat qui lui échappe, Paul. Et s'il ne le gagne pas, il diminue quand même. Il diminue un peu ses chances de pouvoir l'emporter, en tout cas facilement, le 5 novembre prochain.
Maintenant, avec cette bataille à deux, on a vu le ton encore une fois hier soir, Trump qui a répété qu'il fallait fermer la frontière, empêcher les mauvaises personnes d'entrer, retourner de l'autre côté de la frontière des gens qui sont indésirables. Il prétend que le pays est en crise, à l'agonie. Ça va être une campagne sur des thèmes comme ça, sur l'immigration, sur l'économie, sur l'état de l'Amérique.
Absolument. Et déjà, d'ailleurs, on peut parler de la phase 2. Ce débat commence, Paul, demain soir avec le discours de l'État de l'Union qui sera très important, certainement en tout cas pour les dossiers que tu évoques, immigration, économie, j'ajouterais avortement, et il y en a d'autres. Mais surtout, d'abord et avant tout, l'état de santé et le comportement de Joe Biden. Si le président Biden demain soir fait flèche de tout bois et a beaucoup d'énergie, je pense que ça va un petit peu contrer le message de faiblesse que pas mal de gens identifient comme un problème avec Joe Biden. Donc, pour Joe Biden demain soir, c'est vraiment important le discours de l'État de l'Union, qu'il soit capable de montrer qu'il est encore un président très énergétique, si je puis dire ainsi. Mais oui, les enjeux vont être très, très importants. L'immigration, c'est pas possible. Ce dossier-là est le dossier le plus chaud de l'actualité américaine, mais tous les autres vont être importants et vont jouer différemment selon l'état dans lequel vous vous trouvez. Donc, c'est à suivre. Il y aura beaucoup, beaucoup de surprises, je pense.
Deux questions de nos auditeurs et auditrices ce matin. Première question, est-ce qu'il est possible qu'en raison de ses démarches et ses problèmes, surtout devant les tribunaux, Trump ne puisse pas se rendre jusqu'à l'élection de novembre?
Ce n'est pas impossible, mais c'est de moins en moins prévisible. Parce que sur les 4 procès qu'il doit subir, ben, s'il y en a un, voire deux, ça va être beau, hein? Parce que ces procès sont de plus en plus retardés pour toutes sortes de questions judiciaires et le brio des avocats de Donald Trump qui parviennent à faire repousser les échéanciers. Je pense que celui de Jack Smith à Washington et celui sur les documents classifiés en Floride sont les deux pour l'instant qui sont parmi les plus prévisibles d'ici le déroulement de la campagne électorale. Et c'est la question, effectivement, de l'heure. S'il devait être condamné par un seul de ces procès, quel effet cela aurait-il sur sa campagne? On peut percevoir là tout à fait des réponses à l'opposé. Si celui de Jack Smith mène à sa condamnation, c'est possible que ça augmente l'insatisfaction à l'égard de Trump et que ça puisse faciliter l'élection de Biden. En revanche, en Floride, si les documents classifiés mènent en fait à un abandon de la cause parce que le jury n'est pas unanime et ne condamne pas Donald Trump, celui-ci prétendra que c'est une grande victoire pour lui et que ça confirme la chasse aux sorcières que mènent les démocrates contre lui. Donc, ça l'aiderait à être élu, en fait, en novembre prochain. Vous voyez comment c'est complexe.
Tu parlais tantôt de l'enjeu autour de l'âge de Joe Biden. Si les sondages pourraient... On l'a vu d'ailleurs dans les derniers, là, que les Américains se posent des questions, trouvent qu'il est un peu trop vieux pour être président... Et que, en termes d'intention de vote, que Biden traîne de la patte face à Trump, est-ce qu'il pourrait y avoir comme une opération pour le remplacer à la dernière minute?
Je ne le crois pas. Rien n'est exclu, mais je ne le crois pas parce que plus on s'approchera de la convention démocrate, et surtout, regardez avec les scores hier soir, Joe Biden absolument a eu des résultats spectaculaires, sauf pour une vulnérabilité qu'il a. C'est surtout les jeunes qui indiquent non engagés dans leur bulletin de vote, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas voter pour lui, mais qui sont quand même démocrates. Oui, il y a là une grosse vulnérabilité confirmée par les résultats de la primaire d'hier soir au Minnesota notamment, mais aussi au Colorado. Alors oui, Joe Biden est vulnérable, mais je pense qu'il sera le candidat, mais s'il lui arrivait quelque chose, à ce moment-là, sans nul doute, Kamala Harris prendrait sa place comme la désignée ou la nominée du Parti démocrate en vue des élections.
Merci beaucoup, Charles-Philippe. Bonne journée.
Je vous en prie, bonne journée.
Au revoir. Charles-Philippe David, qui est le fondateur de la chaire Raoul Dandurand et président de l'Observatoire sur les États-Unis, qui est rattaché à l'UQAM. Tantôt, mon collègue Jonathan Trudeau disait « Le chat est sorti du sac », une entrevue du ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, à la presse pour dire que finalement, s'il y avait eu un BAP, le projet Nordvolt ne serait jamais venu au Québec. C'était comme une condition plus ou moins avouée, mais que le BAC aurait entraîné des délais. Il est avec nous ce matin. Monsieur Charrette, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Si je comprends l'article, là, puis dites-moi que c'est ça, là. S'il y avait eu un BAP pour le projet Nordvolt, ça aurait pris 12 mois, 18 mois, et ça aurait fait en sorte que Nordvolt aurait été investi ailleurs.
Il faut comprendre qu'il y a une course actuellement à l'échelle planétaire là, pour le développement d'usines de cette nature-là. Et effectivement, si on n'avait pas pu donner de réponse plus tôt à la compagnie, elle était courtisée par d'autres États et elle aurait très certainement retenu un autre emplacement. Mais ceci dit, ce que l'on dit depuis le départ, on n'a pas modifié les règles pour Nordvolt. Ce que l'on a fait, c'est changer une réglementation qui n'impliquait pas la filière batterie. Donc, on a modernisé notre réglementation pour faire place à cette filière-là d'avenir. On parle beaucoup de Nordvolt depuis quelques semaines, mais on pourrait parler de d'autres entreprises qui ont retenu le Québec compte tenu de cette réglementation maintenant qui fait place à la filière batterie. On parle trop peu de GM, POSCO, Ford qui ont décidé de s'installer au Québec. Et pour nous, c'est des éléments là, qui vont nous aider à décarboner notre économie. Donc, on s'en cache pas. C'est une filière économique, oui, qui est importante pour le Québec, mais d'un point de vue environnemental qui est nécessaire aussi pour atteindre nos objectifs.
Okay. Je vous fais entendre le président pour l'Amérique du Nord et fondateur, le cofondateur de Nordvolt, Paolo Cerutti, qui était à notre micro le 3 février dernier. Est-ce que vous avez demandé au gouvernement qu'il n'y ait pas d'évaluation par le BAP, le bureau?
Absolument pas. Absolument pas. Il existait, depuis 2022 d'ailleurs, il existe un cadre réglementaire très clair pour l'industrie chimique et dans l'industrie chimique la batterie qui prévoit dans quel cas il est nécessaire de se soumettre en BAP. Mais il y a aussi une urgence qui est de caractère commercial. Si vous regardez tous les projets qu'il y a en ce moment en Amérique du Nord, qu'ils soient aux États-Unis ou qu'ils soient au Canada, ils sont tous dans une fenêtre de tir qui est entre 2025 et 2027.
OK, Monsieur Charrette, on ne jouera pas sur les mots, là. Il ne vous a pas demandé de faire sauter le BAP. Il vous a dit il ne faut pas qu'il y ait d'obstacles ou de délais. Et s'il y avait eu un BAP, il y aurait eu des obstacles et des délais. Donc, on a un peu modifié beaucoup le règlement pour pas qu'il y ait de BAP.
Et c'est là où je suis pas d'accord avec cette affirmation-là ou cette perception-là. Nous n'avions pas de réglementation pour la filière batterie. Moi, je vous dis qu'au cours de la dernière année, il y a POSCO qui a décidé de s'installer au Québec, il y a GM, il y a Ford également, et au cours des prochains mois, normalement, on devrait être en mesure de confirmer la venue de d'autres grands joueurs à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas pour favoriser Nordvolt, c'est pour favoriser un environnement qui va permettre l'implantation de cette filière-là au Québec. Et d'un point de vue économique, on s'en cache pas, ce sont des milliards d'investissements, des milliers d'emplois intéressants pour
la question.
Et d'un point de vue environnemental, on en a besoin.
Non, mais ça, je conteste pas ça. Moi, c'est la chronologie des événements que je trouve assez troublante. Si vous m'aviez dit au départ, regardez, là, normalement, il y aurait eu un BAP, là, mais on fera pas de BAP parce qu'on va perdre le projet, puis on pense que c'est le plus gros investissement pour toutes les raisons que vous venez de donner. Le message aurait été clair, précis et transparent. Là, c'est t'apprends qu'il y a une rencontre avec Fitzgibbon. Après ça, tu dis, ouais, puis ils ont changé le règlement, ça a permis de faire sauter le BAP. Vous me dites, ouais, mais c'est une nouvelle filière, donc il fallait s'ajuster. La perception, ça fait foi de tout. Pourquoi vous n'avez pas dit dès le départ, écoutez, le BAP, là, si on l'impose, on perd le projet. On va les surveiller à la trace, mais on peut pas se permettre de l'échapper.
Deux choses là-dessus. Et il y a peut-être un petit peu de confusion dans l'esprit des gens. Lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de BAP, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'évaluation environnementale. Pour chacune des étapes de ce projet-là, comme tout projet majeur, il y a des autorisations qui sont nécessaires. Il y a un processus d'évaluation extrêmement strict, sans doute parmi les plus stricts au monde. Et je pèse mes mots en disant ça. Donc, pas de BAP ne veut pas dire pas de conditions strictes à respecter. Et un autre élément qui est important de rappeler, qui a été trop peu mentionné. Tous ces éléments-là de réglementation ont fait l'objet d'une consultation publique au début de l'année dernière. Une consultation sur 40 jours, 45 jours, et il y a seulement 4 groupes qui ont émis des avis sur ces changements réglementaires-là. Uniquement 4 groupes, et 4 groupes qui allaient dans différentes directions. Lorsqu'il y a un changement de réglementation qui est controversé, je peux vous dire, j'en ai quelques-uns en environnement, souvent ce sont des dizaines de mémoires que l'on reçoit, et là on n'en a reçu que 4. Et c'était publiquement admis, là, les intentions gouvernementales à travers la prépublication du règlement en question. Donc, ça a suscité très peu d'intérêt, très peu de réactions. C'est dire que le changement de réglementation était reçu positivement là, par la majorité
non, mais
des
mettez-vous,
intervenants
okay.
dans le secteur.
Mettez-vous à la place du citoyen là, qui se dit, OK, là, on peut jouer sur les mots jusqu'à demain, là, mais il n'y a pas de BAP parce qu'on comprend que le BAP aurait fait dérailler le projet. Première chose. Deuxièmement, il y avait un promoteur immobilier qui s'est fait dire non par votre ministère. Supposément que les milieux humides, tout ça, ça devenait un enjeu important. Oups, eux autres débarquent, et là, on a une autre version. Vous avez dit, c'est pas des pressions politiques, c'est que l'immobilier, c'est pas la même affaire qu'industriel. Monsieur Legault s'est promené avec une banane puis une orange. Avouez là que dans la perception, ça fait un peu amateur.
C'est important de rappeler les faits. Moi, j'ai aucun problème à les répéter si ça peut aider à la compréhension générale du dossier. On parle effectivement de deux projets complètement différents.
Mais du même terrain.
Oui, mais d'un terrain, vous faites bien de le mentionner, un terrain qui est immense, un terrain qui a un passé industriel, donc un terrain qui encore à ce jour a des traces importantes de contamination. Et l'implantation du projet Northvolt n'est pas la même que l'implantation qui était prévue pour le projet résidentiel. Les milieux de biodiversité d'intérêt, notamment l'habitat du petit Blongio, est préservé dans le projet Northvolt alors qu'il ne l'était pas dans le projet résidentiel. C'est la raison pour laquelle, à l'époque, le ministère de l'Environnement avait émis un avis défavorable. Et il y a eu un jugement il y a quelques semaines qui est important de relire. Le juge Collier a clairement dit « ce n'est pas le même projet, ce n'est pas le même emplacement et de surcroît on vient protéger les éléments de biodiversité d'intérêt, ce que ne faisait pas le projet précédent. » Donc, il y a beaucoup de...
Mais il y a des fonctionnaires, ouais, mais il y a des fonctionnaires de votre ministère qui prétendent qu'il y a de plus en plus d'ingérence politique dans l'établissement des rapports, qu'il y a de la pression faite venant de, je dis pas de vous directement, mais en tout cas de la machine de l'environnement pour que ça... Là, quoi?
Là aussi, c'est important de peut-être préciser certains éléments. La biologiste a elle-même admis, le syndicat qui la représente également clairement admis qu'il n'y avait eu aucune pression politique. Et effectivement, un fonctionnaire dans l'Est du Québec qui s'est posé des questions et c'était très, très légitime de sa part de poser des questions. Cependant, il faut savoir que ce sont des évaluations qui sont faites par les directions régionales. Lui, il est dans l'Est du Québec, n'a jamais été impliqué dans l'étude du projet Northvolt lui-même. Il a demandé si toutes les règles ont été respectées. Le ministère a organisé une rencontre parce que la question était très légitime pour rassurer les autres directions régionales qui pouvaient se questionner, qui pouvaient s'inquiéter. Et on a réitéré ce qui devait être réitéré. Okay. Il n'y a eu aucune pression politique, il n'y a eu aucun traitement de faveur accordé à l'entreprise. Et ce sont les mêmes règles très, très strictes d'évaluation qui se sont appliquées et qui vont continuer de s'appliquer. Actuellement, l'entreprise a obtenu une seule autorisation pour aménager le terrain. Il y a plusieurs autres autorisations qui seront nécessaires, notamment pour construire l'usine. Et à chacune des fois, l'entreprise devra justifier le projet. Et à chacune des fois, les autorisations seront nécessaires et on s'assurera là, du respect de la réglementation.
Okay. Deux choses. La première, quand M. Fitzgibbon dit que ce terrain-là est tellement toxique qu'il y a des poissons avec trois yeux et que, autrement dit, on s'énerve bien gros là, sur l'environnement, mais c'est un terrain scrap pas mal. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui?
Mais comme je le mentionnais, c'est un terrain avec un très lourd passé industriel et avec un degré de contamination qui est reconnu. Donc, c'est vrai que ce n'est pas une aire protégée là, d'un point de vue environnemental, mais en même temps, c'est un terrain qui offre des particularités sensibles au niveau de la biodiversité de certaines espèces. On parle du petit Blongiot notamment, et ces espaces-là et ces parties-là du terrain sont préservés dans le projet Northport. C'est la raison pour laquelle on a pu donner l'autorisation là, qui leur permette là, d'aller de l'avant avec le projet.
OK. La deuxième question est simple. Comment le gouvernement du Québec a pu échapper dans l'opinion publique et dans la perception un projet qui normalement aurait dû être applaudi par à peu près tout le monde? C'est une usine de batterie, vous l'avez dit, là, ça, dans le cadre du virage de la lutte au changement climatique. Comment ça se fait qu'on a donné l'impression, par une série de déclarations, de gestes, de contradictions, d'un peu de mollesse, on ne sait pas trop, que finalement, les gens regardent ça, on se dit, ouais, si on nous avait dit la vérité au départ, peut-être qu'on aurait mieux compris.
En fait, et on peut ne pas être d'accord, mais je pense qu'on a dit la vérité depuis le départ, qu'on a été transparent. Il y a certaines informations, je dois vous avouer, là, que j'aimerais voir plus souvent dans les médias. La nuance par rapport à l'emplacement de l'usine versus le projet résidentiel, j'aimerais que ce soit plus présent dans les médias ou dans la sphère publique.
Mais c'est la première fois que vous dites que s'il y avait eu un BAP, le projet aurait dérapé. Je n'ai jamais entendu dire ça avant.
C'est-à-dire, ça a été mentionné à quelques reprises que nous, on devait procéder de façon correcte, oui, mais en même temps, on fait partie d'une course. Là. Je vous le mentionnais, il y a plusieurs États dans le monde qui courtisaient Northvolt. Okay. On le dit à quelques reprises, et on a dit à plusieurs reprises aussi qu'on n'avait pas de réglementation pour établir la filière batterie et qu'on devait la mettre en place, cette réglementation, ce qui nous permet d'accueillir aujourd'hui non seulement Northvolt, je le mentionnais, mais sur le côté de Bécancourt, les POSCO, GM, Ford, et ultimement, on s'en cache pas, et c'est pas, je me le fais souvent reprocher ou souvent dire que c'est l'économie qui supplante l'environnement. Dans les deux cas, on est gagnant sur toute la ligne, d'un point de vue économique et d'un point de vue environnemental. Ce sont des projets là, qui sont très profitables au Québec.
On regarde ça, là. On dit, Fitzgibbon rentre, il a dit, là, j'ai une usine qui s'appelle Northvolt, là. Venez pas m'écœurer avec vos bidules d'environnement, là. Puis la BAP va sauter, puis on va construire l'usine, puis c'est bon. Et lui-même se dit très vert et tout ça, puis j'ai pas de doute là-dessus. Mais quand le ministre de l'Économie dit, j'ai 6 milliards dans mon portefeuille, là, c'est pas vrai qu'on va les gosser avec un BAP.
Moi, je peux vous assurer, et Pierre, et sans doute autour de la table, là, le collègue avec lequel j'ai le plus d'interactions. Pierre a besoin de moi pour faire lever ces projets-là et j'ai besoin de lui pour qu'il puisse se réaliser. Donc, il y a réellement une synergie entre les ministères. Oui. Et d'ailleurs, Pierre est ministre de l'économie, oui, mais également de l'énergie.
Exact.
Et pour ma part, je suis ministre de l'environnement, mais également de la transition énergétique. Donc, des projets comme ceux de Northvolt sont des projets de transition énergétique. Et autant le ministère de Pierre que le mien travaillent ensemble pour justement réaliser nos missions. Et ultimement, moi, j'ai des objectifs à atteindre d'ici 2030 okay. pour la décarbonation de l'économie. Et c'est un projet qui va nous aider à les atteindre.
Merci, M. Charrette. Bonne journée.
Un plaisir, une bonne journée à vous.
Benoît Charrette est le ministre de l'Environnement. On a beaucoup parlé de ce qui se passe dans les centres jeunesse, particulièrement à Laval, donc des enfants qui sont placés dans des salles d'isolement, de retrait, qui ressemblent davantage à des cellules. On nous annonce des enquêtes. Ce matin, la presse revient en disant qu'un cinquième des bâtiments des centres jeunesse qui hébergent les enfants sont en mauvais état. Et quand on dit en mauvais état, ça veut dire des établissements qui ont pas été, qui n'ont pas fait l'objet de travaux de rénovation, de rafraîchissement, des infrastructures qui présentent, et je cite, un niveau élevé et très élevé de dégradation et des immeubles qui ont besoin de travaux majeurs et dans certains cas urgents. Et on se dit comment ça se fait qu'on a laissé à la dérive. On l'a vu avec les écoles puis un certain rattrapage, mais quand même, faut jamais oublier que les centres jeunesse, c'est la maison d'un paquet d'enfants. J'en parle avec Sébastien Pitre, qui est le responsable national de la protection de la jeunesse à l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux. Monsieur Pitre, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
D'abord, êtes-vous étonné de voir qu'il y a autant de centres qui sont désuets, pour ne pas dire autre chose, là?
Honnêtement, avec vous, non. Ça fait des années qu'on constate que les intervenants partout là, au Québec me rapportent des choses en visite aussi. Je vous dirais, ce qu'on a vu dans l'article en fin de semaine, effectivement, c'est terrible, mais dans les dernières années, c'est triste. On a vu pas mal des endroits qui étaient plus pires que ça.
OK. Qu'est-ce que vous avez vu? Partagez ça avec nous ce matin, là, des exemples de lieux physiques qui ont été négligés.
Ben, je vous dirais, M. Arcand, en 2021, dans la région de Montérégie, centre du Québec, il y avait une unité de débordement qui avait été mise en place. Il avait mis des enfants dans un air ouvert, si on veut. Il n'y avait pas de plancher. T'sais, il n'y avait pas de tuiles au plancher. C'était vraiment un plancher, comme on pourrait dire, sur le roof, là, sur le bois. Les lits des enfants étaient séparés avec des paravents, avec des rideaux. Les jeunes ont même eu comme repas des fois des copes soupes, là, des soupes en pot qu'on rajoute de l'eau. Fait que ça, c'était de quoi qui était acceptable pour les gens qui avaient décidé de mettre les enfants là. Fait, je vous dirais, ça, c'est des choses qu'on a constatées. Des endroits qu'on voit aussi qui n'ont pas d'air climatisé. Des endroits que l'été, il peut faire extrêmement chaud et versus l'hiver, des endroits qui peuvent faire très, très froid. Ça, c'est des choses qu'on remarque et qu'on voit souvent. Là.
Mais est-ce que vous me parlez de situations temporaires, là? C'est-à-dire que quand vous mettez des enfants dans une aire commune comme ça, c'est parce qu'on fait des travaux ailleurs, ça dure quelques jours, ou si c'est une méthode de gestion?
C'est une méthode de gestion. C'est rendu une méthode de gestion. Auparavant, dans le passé, lorsqu'on remonte à plusieurs années, c'était des choses qui pouvaient se voir, mais c'était du très court terme. C'était quelques jours, avoir maximum, je vous dirais, là, une semaine. Souvent, les intervenants se le font vendre et les enfants aussi, en disant « bon, c'est temporaire, le temps de trouver un autre endroit, donc ça va être quelques jours ». Mais finalement, on s'aperçoit que les enfants restent plusieurs semaines, voire des mois dans le même endroit, débordement. Des fois, on voit aussi des salles d'apaisement pour des enfants qui sont transformés en chambres. Souvent, on se fait dire encore là que c'est pour quelques jours, mais finalement, on se retrouve que 6 mois après, on a perdu notre salle d'apaisement dans l'unité de réadaptation, que c'est rendu une chambre, qu'on a un jeune de plus dans notre groupe.
OK, mais ce que vous êtes en train de me dire, c'est que c'est pas seulement à Laval où on a ce genre de placement dans des cellules.
Je vous dirais, je serais curieux de trouver un endroit au Québec où ce que ça s'est pas fait, de transformer un bureau, de transformer une salle d'apaisement, de transformer un coin en chambre. J'aurais de la misère à vous nommer un endroit où ce que ça s'est pas fait au Québec dans les dernières années.
Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire ce matin s'il y a eu des investissements? Je comprends qu'il y a eu quelques nouveaux centres qui se sont ajoutés, là, mais est-ce qu'il y a des bâtisses qui ont été rénovées? Est-ce qu'il y a des endroits où on a minimalement peinturé, où on a, je dirais, fait les travaux d'urgence qui s'imposaient, ou si on est, je dirais, face à un sous-investissement?
Je voudrais le sous-investissement, on le constate depuis plusieurs années. C'est sûr que souvent, dans plusieurs unités, plusieurs centres, les intervenants ils mettent beaucoup de cœur. Souvent, les intervenants mettent la main à la porte. J'ai vu des endroits où ils ont fait la peinture avec les enfants, que ce soit transformer ça en mural, si on veut, que les enfants participent pour essayer de trouver un moyen de finalement patcher le mur ou rendre ça plus beau, plus joli. On a des intervenantes qui l'ont fait aussi. J'ai des endroits où des intervenantes ont fait des murales sur des murs. Mais effectivement, là, on constate le sous-investissement. Là, on patche, on met des plasters. Là, je vous dirais, c'est l'approche plaster depuis plusieurs années.
Le ministre Carman était avec nous hier. On nous parle d'une enquête bon, qui est déclenchée. La Commission des droits aussi, qu'on va créer un poste de commissaire aux droits des enfants. Est-ce que ça change quelque chose, ces mesures-là?
Ben moi, je vous dirais, au final, ça dépend de la façon qu'on le fait. Si le gouvernement fait comme dans les dernières années, de gérer en silo, ça ne donnera rien. Il faut vraiment que le gouvernement interpelle les organismes, les salariés, les gens qui travaillent de près avec ces enfants-là, les syndicats aussi, on peut apporter des idées nouvelles. Mais je voudrais, ce que je trouve plus dommageable, c'est la DNPJ, bon, vous l'avez nommée, mais Mme Lemay, elle est où? Elle fait quoi? Pour le cas que je vous ai parlé tantôt de Montérégie Centre du Québec, nous, il a fallu interpeller directement le ministre Carman là-dessus. Il est intervenu, il est arrivé, bon, finalement, des solutions pour régler là, le problème. Mais de notre côté, la DNPJ, c'est lettre morte, on n'a pas de retour d'appel, elle n'a aucune... On se demande même si ça prend la cause des enfants à cœur.
OK. En terminant, est-ce que le profil des enfants de la DPJ a changé au fil des années? Hier, le ministre Carman nous disait, avec la pandémie, il y a plein de jeunes qui, normalement, devraient pas être dans un centre jeunesse, là, qui s'y sont retrouvés parce que la pandémie a eu un effet négatif pour eux. Les parents étaient débordés. Autrement dit, donc, c'est des enfants qui n'avaient pas leur place dans un centre jeunesse. Est-ce que c'est vrai, ça?
Moi, je vous dirais, c'est peut-être un peu plus que la pandémie. Il y a eu moins de signalements avec les écoles qui étaient fermées. Il y a eu moins de suivi des enfants à risque ou en danger. Donc, il y a eu moins de signalements. Fait qu'on a vécu une baisse. Lorsque la pandémie, bon, les mesures d'urgence ont été arrêtées, que les écoles ont réouvert les centres, les activités et tout, on a revu une hausse que peut-être que le système n'était pas prêt non plus à prendre. Il y a aussi le fameux enjeu de baisser les listes d'attente des enfants d'évaluation. Ben, ça fait en sorte qu'on évalue beaucoup plus. Donc, au final, ces enfants-là ne disparaissent pas. Ils se retrouvent à l'application des mesures. Puis souvent même, on a de ces enfants-là qui se retrouvent en service de réadaptation. Puis le système n'était pas prêt à accueillir une hausse d'enfants.
Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée.
Merci à vous.
Merci. Sébastien Pitre est le responsable national de la protection de la jeunesse à l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, la PTS. Je veux vous dire qu'il est intervenant depuis 16 ans en centre jeunesse en Gaspésie. Et donc, il a une assez bonne expérience terrain. Mais ça complète un peu ce qu'on se disait. Puis je remercie les intervenants et les intervenantes qui m'ont beaucoup écrit dans les derniers jours et qui décrivent exactement ça. Donc, le cas de Laval, OK, va faire l'objet d'une enquête, mais il n'y a pas qu'à Laval où il y a ce genre, malheureusement, de pratique.
C'est 23.